L'humilité, c'est important pour tout le monde. Ça l'est spécialement, par exemple, pour ceux qui remplissent un ministère, parce qu'ils ont sans cesse à travailler en contact avec les gens. On va parler de plusieurs aspects de l'humilité. On va commencer par parler de l'humilité que ça prend avant d'être établi par Dieu dans le ministère. D'abord, Pierre a écrit « Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. » 1 Pierre 5:6. Il faut avoir beaucoup de patience, c'est-à-dire d'humilité pour attendre le temps de Dieu, puis de ne pas entrer dans le ministère avant d'être prêt. Là, je ne parle pas de se sentir prêt. Je parle d'être prêt aux yeux de Dieu, non des nôtres. Il y en a qui ne se sentent pas prêts, puis qu'ils sont. Puis il y en a d'autres qui se sentent prêts, puis qu'ils ne sont pas. Quand Moïse a tué l'Égyptien, il se sentait prêt à entrer dans son ministère de libérateur tout de suite, lui-là. Mais Dieu l'a jugé prêt seulement 40 ans plus tard. Il s'est pratiqué pendant 40 ans sur des moutons avant de garder vraiment des hommes. Quand j'étais plus jeune chrétien, moi, je savais que Dieu m'appelait à quelque chose, mais je savais pas quoi exactement, ni quand exactement. Fait que je faisais toutes sortes d'affaires. Tout au long de ma vie chrétienne, j'ai toujours eu l'impression que Dieu allait m'ouvrir les portes d'une journée à l'autre, mais les portes s'ouvraient jamais. C'était juste l'empressement de la chair qui me donnait un faux message, puis qui me disait que c'était que le temps était venu. Ça m'humiliait, évidemment. Alors, il y a une prière que j'ai été souvent obligé de faire. « Seigneur, laisse-moi pas entrer dans le ministère trop tôt. Laisse-moi pas succomber à la tentation d'entrer par les portes que les hommes peuvent m'ouvrir, mais donne-moi la patience d'attendre, puis d'entrer par les portes que toi tu vas m'ouvrir en ton temps. » N'ayez pas peur, on ne peut jamais entrer dans le ministère trop tard. Dans le Seigneur, on ne court pas, on marche, a dit un jour incroyable, puis rien de plus vrai que ça. Il y a un proverbe arabe qui dit « Tout ce qui est vrai, tout ce qui est fait avec précipitation est fait dans le sillon de Satan, et tout ce qui est fait avec patience est fait dans le sillon de Dieu. » Plus on va attendre, plus on va être mature, plus on va faire un bon travail aussi. Plus Dieu nous aura préparé longtemps, plus notre ministère risque de se développer et de s'étendre rapidement aussi. Alors, il n'y a aucune perte à attendre. Le temps que tu passes à aiguiser ta hache, ce n'est pas du temps perdu. Acte 20, 30, l'apôtre Paul a dit, « Il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses. » On voit ici qu'une des marques d'un mauvais leader, c'est de s'élever lui-même. Ou de se laisser élever par d'autres hommes, dont la montre. Les montres ne sont pas plus à l'heure que la sienne, dans le fond. Les gens dont Paul parle ici, n'allez pas attendre que Dieu les élève. Comme nous disait Pierre tantôt, la deuxième partie du texte ajoute qu'ils allaient entraîner les disciples après eux. Une autre version traduit « faisant d'eux leurs disciples personnels ». La marque des faux prophètes, ou d'un mauvais leader, ou d'un leader immature, c'est aussi de se prêter à eux-mêmes beaucoup d'autorité. Dans leur esprit immature ou orgueilleux, les suivre égale suivre Dieu, puis leur désobéir égale désobéir à Dieu. Personne ne peut donc questionner leur décision sans se placer automatiquement sous la désapprobation divine, entre guillemets. Ils aiment se rendre plus importants que le reste de l'Église. Ils aiment sentir que les gens gravitent autour d'eux autres, puis dépendent d'eux autres, un peu comme les disciples gravitaient autour de Jésus-Christ. C'était peut-être normal pour Jésus-Christ, mais c'est pas normal pour nous autres, c'est pas normal pour un leader. Ces gens-là cherchent à être les personnages les plus importants dans l'Église, puis ils y arrivent très bien aussi. Le vrai Christ est relégué au second plan, puis cette Église-là devient pratiquement une secte. Se donner de l'importance aux yeux des hommes, ça c'est facile. Mais prouver à Dieu qu'on mérite un poste de leadership, c'est une autre affaire. Alors l'humilité, c'est très important chez le leadership, si on ne veut pas subir une déformation à cause de l'orgueil. Attendre le temps de Dieu a pour effet d'anéantir lentement cet orgueil-là qui nous pousse toujours à nous mettre en avant aux yeux de l'Église. Maintenant, on va parler un peu de l'humilité que ça prend après à être arrivé dans le ministère. En 2 Corinthiens 12, 6, Paul a écrit « Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité, mais je m'en abstiens afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il attend de moi. » Entends-moi, dis-je. Paul n'était pas égocentrique. Paul était un noble et humble homme de Dieu. Puis il laissait simplement les gens voir ce qui émanait de sa personne puis de son caractère. Il ne tentait pas d'influencer puis d'augmenter davantage le degré de soumission des chrétiens envers lui. Paul s'abstenait de raconter toutes ses révélations pour ne pas créer une impression exagérée de son autorité spirituelle aux yeux des chrétiens puis de fasciner leur esprit. S'il avait fait ça, Paul aurait pu très facilement se mettre au premier plan dans l'Église en éblouissant tout le monde. il aurait pu captiver l'esprit des gens puis les asservir complètement à son leadership. Il aurait pu les rassembler là, en rang bien serré autour de lui, puis il aurait pu décupler son autorité ou son influence sur eux autres, puis se faire obéir en claquant les doigts s'il avait voulu. Mais il serait devenu le centre d'intérêt, puis Jésus-Christ aurait été relégué au second plan. Ça, c'est dangereux. C'est pas toujours évident, c'est pas tout le monde qui s'aperçoive de ça, mais dans certaines églises, c'est ça qui est arrivé. C'est bien triste parce que la croissance spirituelle des gens est arrêtée à ce moment-là. Paul serait devenu le leader d'une secte évangélique bien facilement. Puis les trois quarts des gens s'en seraient même pas rendus compte. J'ai vu quelques assemblées où la situation n'était pas trop claire de ce côté-là, franchement parlé. Il était assez évident que le personnage le plus important dans l'Église, c'était pas Jésus-Christ, mais le pasteur. Une Église, c'est un groupe de croyants qui gravitent autour de Jésus-Christ. Une secte, c'est un groupe de croyants qui gravitent autour d'un leader humain qui se donne comme chef, puis où Jésus-Christ est dans l'ombre du leader au lieu du contraire. En tant que conducteur spirituel, faisons bien sûr qu'on cherche toujours, en tout et partout, la gloire de Dieu et de Jésus-Christ dans l'Église. Laissons Jésus-Christ être le vrai chef de son Église. Ayons pas peur de nous mettre dans l'ombre. Prenons la même attitude que Jean-Baptiste. Il faut qu'il croisse et que je diminue aux yeux des gens. De cette façon-là, l'Esprit de Jésus va pouvoir faire un plus grand ministère dans l'Église. Puis on va tous en être bénis. Paul continue son texte en disant, « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. » Dieu possède des façons bien à lui de nous humilier. On se souvient par exemple que Paul a dû se faire descendre dans un panier avec des cordes, le long d'une muraille pour échapper à la mort. Imaginez donc, le grand apôtre Paul réduit à se mettre en petit tas là, dans le fond d'un panier, là, devant les chrétiens qui le descendaient. Pourriez-vous imaginer Jacques Marcoux ou Mario Massicotte en train de faire ça? À mon avis, ça a dû être une expérience bien humiliante. En tout cas, que ce soit d'une façon ou d'une autre, on sait que Dieu a empêché Paul de s'enorgueillir. Puis il n'y a rien qu'une façon de faire, il n'y a rien qu'une façon de détruire l'orgueil, les amis, c'est l'humiliation. Alors, c'est-à-dire, Dieu a empêché Paul de s'enorgueillir, nous dit l'Écriture, c'est-à-dire de se mettre à se donner de l'importance, puis de devenir un leader égocentrique, autoritaire, puis de se mettre à imposer son leadership, puis ses décisions, au lieu de se mettre à l'écoute des besoins de l'Église. Jésus a dit, « À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Quand Jésus parle ici d'amour, il faisait tout spécialement référence à l'exemple qu'il venait de leur donner, c'est-à-dire au lavement de pieds, puis à l'esprit serviteur qui devait plus tard les animer les uns envers les autres. Jésus nous a ici enseigné que chez le leadership, l'amour, c'est l'humilité. Ça se traduit souvent en humilité. L'amour, c'est l'humilité qu'on a envers les autres membres de l'Assemblée. Écoutez-moi bien, les hommes autoritaires qui dominent puis qui imposent leur leadership n'aiment pas l'Église. Ils s'aiment eux-mêmes, puis se servent eux-mêmes. L'amour dont Jésus parle, c'est celui qui nous pousse à considérer les intérêts puis les sentiments des autres comme étant plus importants que les nôtres à rencontrer. L'amour de la première place rend souvent un homme sévère, voire même cruel dans certains cas avec les croyants. Je sais que cette parole-là a souvent été dite, mais je pense qu'elle mérite encore d'être répétée. Plus on grandit dans le Seigneur, plus on se rapproche des pieds de nos frères. Je ne peux rien que dire amen à ça. Là, une exhortation en Philippiens 2 qui s'adresse, à mon avis, spécialement au leadership. Ne faites rien par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. C'est pas à l'Église à regarder leur leader comme étant au-dessus d'eux-mêmes. C'est au leader à regarder l'Église comme étant au-dessus d'eux-mêmes. En 2 Corinthiens, Paul continue en disant, « Il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Paul avait renoncé à se servir de son ministère pour la gratification de son ego. On a tous plus ou moins des motifs impurs. Paul était au contraire très humble. C'est exactement ce qui lui valait la faveur de Dieu, puis l'onction du Saint-Esprit. Quand il parle de ses faiblesses, là, il parle plutôt de ce que le monde considérait comme des faiblesses de caractère. C'était quoi les faiblesses de Paul? Bon, par exemple, il ne se recommandait pas lui-même, comme les gens le font. Il n'était pas imposant comme les gens dans le monde le font. Il n'était pas autoritaire, comme les gens en autorité dans le monde le font. Puis il acceptait humblement les limites de la confiance que les gens mettaient en lui. Il n'imposait pas non plus son soutien financier, mais acceptait même de travailler de ses mains pour pourvoir à ses propres besoins. Incompris puis maltraité, il ne cherchait pas à commander le respect, mais il défendait son ministère avec douceur, puis faisait appel au témoignage de la conscience de ceux qui doutaient de son apostolat. Bon, ces faiblesses de caractère-là lui valaient bien souvent d'être méprisé par les hommes, mais elles lui valaient la faveur de Dieu aussi, par exemple. Il y a aussi l'humilité dans notre façon de transmettre nos exhortations puis notre enseignement. En Philémon 8:9, l'apôtre Paul lui a écrit « Bien que j'aie en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable, c'est de préférence au nom de la charité que je t'adresse une prière. » L'humilité chez un leader va le porter à tirer l'Église avec les liens de l'amour avant tout, au lieu d'utiliser le tournevis, comme on dit. Hein? Paul a dit qu'il y avait toute liberté et non toute autorité de prescrire des choses à Philémon. Allons pas au-delà de ce qui est écrit. Il n'y a personne qui possède toute autorité dans l'Église, à part Jésus-Christ. Le mot grec traduit ici par « liberté », selon le Dr. Vines, dénote premièrement, la liberté de parole, la liberté de s'exprimer sans réserve, de parler sans ambiguïté, franchement, avec hardiesse. Par exemple, en Jean 10, 24, les Juifs dirent à Jésus, « Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. » Il y a aussi en Acte 4, 31, comme autre exemple, quand ça dit que les apôtres annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Il y a aussi en 2 Corinthiens 3, 12, « Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté. » Alors, quand Paul dit à Philémon qu'il a toute liberté de lui prescrire des choses, il ne veut pas dire qu'il a le droit ou l'autorité de la part de Dieu de conduire par le bout du nez, puis que Philémon était lié par l'obéissance vis-à-vis de Paul devant Dieu. Paul n'avait pas plus que les autres le droit d'imposer son leadership à personne dans l'Église. Le pasteur peut avoir de l'autorité en lui, mais il n'y a pas d'autorité sur les gens, ou au-dessus des gens, par exemple. C'était vrai que Paul avait plus d'autorité spirituelle que la plupart des chrétiens de son temps. Mais précisons par exemple que l'autorité spirituelle de Paul lui est pas venue comme ça tout d'un coup. Paul avait une histoire avec Dieu, pour employer l'expression de Watchman Nee. Je vous rappelle que Paul dit aussi, dans ce passage-là, qu'il était devenu un vieillard dans le Seigneur. C'est précisément ça qui donnait à Paul cette grande liberté de jugement et liberté d'exhortation dont il parle. C'est en marchant avec Dieu qu'on acquiert de l'autorité spirituelle. C'est pas en sachant parler le latin, ou en étudiant la théologie, l'herméneutique ou l'histoire d'Église. Comprenez-moi bien, toutes ces choses-là peuvent nous être utiles dans notre ministère, je m'en sers moi-même. Mais c'est quand même pas là que réside vraiment l'autorité spirituelle. Voilà autre chose d'important. Peu importe l'autorité qu'un homme croit avoir dans l'Église, il peut pas remplacer Jésus-Christ, il le remplacera jamais. Il ne doit pas essayer de le faire non plus. Paul a écrit en 2 Corinthiens 5, 20 « Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ. » L'ambassadeur, c'est un porte-parole de son gouvernement. Il n'est pas le gouvernement. L'ambassadeur doit représenter fidèlement la volonté de son gouvernement et non la sienne. S'il est indépendant et qu'il se met à parler de son propre chef, c'est comme s'il trahirait son gouvernement. Puis les conséquences d'une pareille liberté peuvent être très graves. C'est la même chose pour les leaders de l'Église. On doit tous accepter nos limites en tant que conducteurs spirituels. L'humilité, c'est la mère de l'autorité spirituelle. Puis l'orgueil, ben, c'est le père de la contrefaçon. Les mots comme pasteur, évangélique, évangéliste, docteur, prophète, sont pas des titres honorifiques qui élèvent une personne au-dessus des autres, mais une simple définition d'une fonction. Le mot plombier, par exemple, n'est pas un titre honorifique, mais ça fait simplement référence à une personne qui fait de la plomberie, qui répare des tuyaux. Dans certains milieux, le mot pasteur ne suffit plus, on se fait appeler mon révérend maintenant. La définition du mot révérend qu'on donne quelquefois au ministre, c'est titre d'honneur qu'on donne aux religieux et religieuses, qui est digne d'être révéré, qui est digne de respect, de vénération. Alors, si Jésus vivait à notre époque, puis s'il verrait ce qu'on a fait du leadership dans l'Église, ben il est probable qu'il nous dirait la même chose qu'il a déjà dit. En Matthieu 23, 8, « Ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est votre maître, vous êtes tous frères. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. » Il ajouterait peut-être, « Ne vous faites pas appeler révérend, car un seul, vous devez révérer. » Ce qui est important de remarquer dans ces deux versets-là, c'est l'expression « ne vous faites pas appeler ». On peut être reconnu comme pasteur, comme docteur ou comme conducteur. Tout ça, c'est bien normal. Mais quand on commence à regarder ça comme un rôle honorifique qui nous élève au-dessus des autres frères dans l'Église, puis à trouver du plaisir à entendre les autres nous appeler comme ça, il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Les Écritures nous rendent le témoignage que même les plus grands hommes de Dieu de l'époque étaient comme tout le monde, appelés par leur prénom. En Romains 16, 12, ça dit « Saluez Tryphène et Tryphose qui travaillent pour le Seigneur. Saluez Perside, le bien-aimé, qui a beaucoup travaillé pour le Seigneur. On a Céphas en Galates 2, 11, frère Paul en 2 Pierre 3, 15, Apollos, 1 Corinthiens 1, 12, on a Timothée en Romains 16, 21. L'humilité, c'est pas de se voir comme un bon à rien, mais c'est de pas se voir comme plus important qu'on est, puis pas plus important que les autres dans l'Église. C'est ça, l'humilité. L'humilité, c'est aussi de connaître nos propres limites spirituelles. L'autorité d'un homme a pour limite la mesure de grâce de ses dons particuliers, la mesure de sa piété puis de sa maturité. Quand tu vas au-delà de ça, tu vas au-delà de ton autorité. Prenons garde à ceux qui parlent toujours de leur sermon comme s'agissant de la parole de Dieu. Je sais qu'il y en a beaucoup qui disent ça par habitude, sans nécessairement avoir un problème d'orgueil, là. Mais ce serait peut-être mieux de ne pas employer cette expression-là à la légère. On peut dire qu'il s'agit de la parole de Dieu quand on fait référence à la Bible, mais pas souvent quand il s'agit de nos sermons, par exemple. Notre façon d'interpréter la Bible sera toujours sujet à caution. Soyons assez humbles pour reconnaître ça au départ. En ce qui concerne le degré d'inspiration de notre enseignement ou de nos exhortations, il appartient vraiment qu'à Dieu lui-même de juger de ça puis de dire s'il s'agit ou non de sa parole. Considérons le mot « autorité » maintenant. Ce terme-là est souvent employé illégalement. Puis on véhicule souvent une mauvaise interprétation du concept de l'autorité dans l'Église en faisant ça. C'est peut-être juste un détail, vous allez me dire, mais quand ça fait au-dessus de 15 ans qu'on entend ça, ça finit par devenir agaçant, puis on sent le besoin d'en parler. Je m'explique. Maintenant, beaucoup de pasteurs, sans penser à mal, j'en suis sûr, emploient des termes comme « mon église » ou « mon assemblée » ou « mes gens », en parlant de l'église locale où ils exercent leur ministère. Bon, c'est rien qu'une façon de parler, bien sûr, mais je me demande des fois jusqu'à quel point notre façon de parler trahit pas un peu notre façon de penser également. On sait pourtant que le pasteur possède aucune brebis. Tout croyant appartient à Jésus-Christ. Alors pourquoi on parle tout le temps comme si l'Église nous appartenait? Qu'est-ce que vous penseriez de moi si je disais à tout le monde que votre femme, c'était ma femme? Hein? Maintenant, l'Église, sais-tu ou sais-tu pas l'épouse de Christ, selon Éphésiens 5? Puis si elle est l'épouse de Christ, elle ne peut pas être la nôtre en même temps, je m'excuse. C'est juste un détail, je le sais, mais je pense que l'humilité enseigne qu'on devrait adopter une façon de parler qui soit plus conforme à la vérité biblique. Ça prêterait moins à confusion dans l'esprit des gens parce que j'ai réalisé que ça influençait vraiment la façon de penser des gens à la longue. Au lieu de dire « mon église », on devrait prendre l'habitude de dire, par exemple, « l'église où je fais du ministère », « l'église de Dieu » ou de dire « l'église tout court ». L'apôtre Pierre a écrit « afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par vos apôtres ». 2 Pierre 3:2. Pierre avait une très juste vision des choses. Ce texte-là nous montre que c'était les apôtres qui appartenaient à l'Église, et non l'Église qui appartenait aux apôtres. Alors, si les apôtres étaient serviteurs de l'Église, combien, plus forte raison, les pauvres petits pasteurs, les pauvres petits enseignants comme moi, doivent être des serviteurs aussi, aux yeux de Dieu, puis aux yeux de l'Église. Paul a écrit que personne, donc, ne mette sa gloire dans des hommes. Car tout est à vous, soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, tout est à vous, et vous êtes à Christ. 1 Corinthiens 3, 21. Excusez. Le mot « autorité » dans le Nouveau Testament est jamais employé pour désigner les hommes faisant office de pasteur. Fait réfléchir, ça. On emploie plutôt des mots comme « dirigeant »,« surveillant »,« père »,« ancien », puis comme étant ceux qui président ou comme étant les modèles du troupeau. Le mot « autorité » est quand même employé en de rares occasions, là, en relation avec le ministère de l'apôtre Paul. Mais il prend le sens plutôt d'autorité spirituelle et non d'autorité de juridiction ou de législation. En 2 Corinthiens 18 et aussi en 2 Corinthiens 13-10, Paul a précisé qu'il avait reçu son autorité de Dieu lui-même et non des hommes. Il y a deux sortes d'autorité. Il y a celle que les hommes nous accordent, puis il y a celle que Dieu lui-même met en nous autres. Le rôle d'ancien ou du pasteur, c'est de transmettre une juste image de Dieu, puis de transmettre la juste pensée de Dieu, autant que c'est possible pour lui. Le pasteur qui ne peut pas servir d'exemple n'a pas d'autorité. Non, ce n'est pas tous ceux qui sont en poste d'autorité qui ont de l'autorité devant Dieu. Malheureusement, l'autorité, ce n'est pas quelque chose qui vient sur toi quand tu deviens pasteur. C'est quelque chose que Dieu met en toi, puis que tu acquiers chez toi, petit à petit, dans ta vie de tous les jours, même avant d'entrer dans le ministère. Il est facile de comprendre qu'un homme comme Paul, ayant reçu des révélations à faire pâlir des anges, là, ayant de nombreuses années de ministère béni à son actif, puis possédant tous les dons spirituels, puis qui avait une montagne d'expérience derrière lui, puisse avec raison parler de son autorité dans le Seigneur. C'est en ayant l'onction du Saint-Esprit aussi, puis en accumulant de l'expérience, de la sagesse, puis de la maturité, qu'un croyant acquiert lentement de la respectabilité, comme nous dit Paul en 1 Timothée 3:13, c'est-à-dire de l'autorité spirituelle dans l'Église. La sagesse, la piété, puis l'expérience sont les véritables sources de l'autorité spirituelle. Il faut qu'on soit soumis à notre leadership dans l'Église, c'est-à-dire avoir un esprit docile puis enseignable. Mais il y a une différence entre avoir une attitude soumise puis avoir un esprit faible, comme nous dit Paul quelque part. La soumission ne doit pas aller jusqu'à la naïveté. Proverbe 14:15 nous dit « L'homme simple croit tout ce qu'on dit, mais l'homme prudent est attentif à ses pas. » Une autre traduction a rendu « L'homme prudent regarde bien où il est en train de s'en aller. Il suit personne aveuglément, autrement dit. » Pour un pasteur, il est bien évident que de conduire des gens qui sont naïfs un petit peu sur les bords, c'est bien plus facile. Une assemblée qui s'est mise dans la tête là, que le pasteur était le représentant de Dieu dans l'Église devient évidemment très facile à diriger. Puis là, j'exagère pas. J'ai déjà connu une Église qui avait une véritable papauté évangélique d'établie là. Sachons faire la différence entre la soumission puis l'assujettissement. Il y a une différence entre être soumis à quelqu'un puis le suivre aveuglément, ce que Dieu ne requiert pas du tout. Beaucoup de croyants préfèrent malheureusement être conduits par des hommes plutôt que de rechercher à l'être eux-mêmes par le Saint-Esprit. C'est tellement plus facile. Tu n'as pas besoin de prier, tu n'as pas besoin de sonder la Bible. C'est bien moins compliqué puis bien moins fatigant. Mais c'est beaucoup moins enrichissant spirituellement, par exemple. Puis c'est drôlement dangereux aussi dans certains cas. Cette sorte de croyant-là demeure très longtemps des enfants spirituels. Ils vivent dans la dépendance de leur pasteur puis ils ne grandissent pas dans le Seigneur. La soumission de l'Église envers ses dirigeants spirituels doit être motivée par la confiance, une confiance inspirée par la présence évidente de l'onction de l'Esprit de Dieu dans la vie de ces dirigeants-là, et non pas par une supposée obligation de se soumettre aux autorités, comme on dit, comme on entend souvent. La confiance puis la soumission, ça va de pair. La soumission, ça ne s'ordonne pas, les amis, ça se mérite. Jésus enseignait au peuple ceci. Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Matthieu 23:2. Le mot grec traduit par chair est cathédra, d'où vient le mot latin, le ex cathédra, qui signifie parler à partir d'un lieu d'autorité, comme le pape par exemple. Quand le pape parle ex cathédra, ses paroles ont selon lui la même autorité que les paroles mêmes de Dieu. Maintenant, parce que les pharisiens enseignaient le peuple à partir de la chair de Moïse, de la loi de Moïse, eux autres, ils croyaient automatiquement, donc, posséder autant d'autorité que lui. Ça marche pas comme ça. Les docteurs de la loi avaient une très haute opinion d'eux-mêmes, de leur connaissance puis de leur ministère. En disant « être assis dans la chair de Moïse », les pharisiens s'arrogeaient en quelque sorte la même autorité que lui, alors qu'ils ne l'avaient pas. En réalité, ils usurpaient plutôt une autorité qu'ils n'avaient pas. Ils essayaient de se donner une importance aux yeux des gens qu'ils n'avaient pas aux yeux de Dieu. Les pharisiens tiraient leur gloire les uns des autres aussi. Jésus nous dit ça quelque part. C'est-à-dire que ce sont les plus hauts placés parmi eux autres qui transmettaient de l'autorité aux autres plus bas dans la hiérarchie. Mais dans le royaume de Dieu, aucun homme ne peut transmettre de l'autorité à un autre homme. Christ possède un sacerdoce intransmissible. C'est-à-dire que l'autorité spirituelle, ça ne se transmet pas comme ça, selon la volonté des hommes. Un jour, durant une certaine réunion, juste avant le sermon, il y a une croyante qui se lève, qui venait d'une autre église, là. Elle ne connaissait pas le pasteur vraiment. Elle se lève, elle se dirige en avant, puis elle pose sa main sur l'épaule du pasteur, puis elle s'adresse à toute l'assemblée, puis elle dit « Le Seigneur vient de me montrer que pasteur X est un entonnoir spirituel, Il est l'entonnoir par lequel le Saint-Esprit passe pour vous enseigner. Croyez ce qu'il vous dit afin que vous prospériez. Si j'avais eu un dentier, il serait tombé à terre cette journée-là, je pense. J'ai longtemps réfléchi là-dessus, puis personnellement, je ne peux pas accepter cette parole-là comme étant une parole inspirée de Dieu. Mais juste un élan de sentiment qui n'était pas sage et téméraire. Premièrement, parce que je ne crois pas à cette parole-là, parce que ça sous-entend qu'il n'y a rien que le pasteur que le Saint-Esprit. Deuxièmement, parce que cette parole-là tend à lier les croyants à un homme, les rendant dépendants de lui et de son enseignement. Pour le croyant, toute dépendance à un homme, si pieux soit-il, va finir tôt ou tard par lui être désavantageux. Le croyant doit au contraire apprendre à dépendre de moins en moins des hommes, puis de plus en plus de Jésus-Christ et de son esprit. Sans ça, il n'y a pas de croissance spirituelle possible. Sous l'Ancien Testament, peu de gens avaient le Saint-Esprit. Ils n'avaient pas le choix, les gens. Les gens étaient dans l'obligation de s'en remettre complètement à ceux qui l'avaient pour recevoir direction dans le Seigneur, comme les prophètes. Mais c'est plus comme ça aujourd'hui. Dieu a accordé le Saint-Esprit à tout le monde. En Jean 2, 26-27, il est écrit « Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. » Bon, laissons aucun homme, là, mauvais ou bon, remplacer le Saint-Esprit dans notre vie. Celui qui a beaucoup de chefs les a pour son malheur, puis celui qui laisse monter des hommes au-dessus de sa tête risque de verser plus tard des larmes amères. Ajoutons pas foi à toute autorité, mais éprouvons l'autorité pour savoir si elle vient de Dieu ou des hommes, ou si elle est mélangée. Apprenons à discerner ça, à trancher dans ces choses-là. Tout ce qu'on entend du haut de la chair n'est pas nécessairement la parole de Dieu, je m'excuse. Mais s'il s'agit de, même s'il s'agit de moi ou d'un prédicateur bien sincère ou bien connu, il faut toujours exercer un discernement. Peut-être qu'il y en a qui ont envie de dire, « Bon, ben Jocelyn, tu trouves pas que tu es sévère un peu avec les pasteurs. Il me semble que tu devrais les ménager un peu plus. » Bon, je reconnais là que le tact, ça n'a jamais été ma principale qualité. Je m'en excuse profondément. Je fais beaucoup d'efforts de ce côté-là, si ça peut vous consoler. Mais j'ai des amis pasteurs. Je sais bien que les pasteurs font en général un travail de bœuf. Toujours entendre le chiolage de tout le monde, toujours en train d'essayer de faire plaisir à tout le monde, sans jamais y arriver. Plusieurs travaillent 6 jours sur 7, puis ils font des journées de 16 heures, si bien qu'il y en a qui font des burn-out comme récompense. Je le sais, ça. Je suis bien conscient de tout ça. Beaucoup de pasteurs, non, je dirais même que tous les pasteurs sont maltraités par l'Église où ils sont à un degré ou à un autre. C'est un fait. C'est un ministère bien ingrat. Le ministère de pasteur, on ne sait pas ce que c'est avant de l'avoir fait. C'est le ministère le plus ingrat qu'il n'y a pas, à mon avis. Il y a des croyants partout qui prennent un malin plaisir à opposer puis à faire du trouble aux pasteurs de leur assemblée. C'est un problème bien réel. Mais, il n'y a pas seulement que des bons pasteurs. Il y en a qui méritent de se faire rouler dans la farine un petit peu, vous savez. Puis il n'y a pas que les pasteurs qui font des burn-out non plus. Il y a des chrétiens qui font des dépressions à cause de leurs pasteurs aussi, saviez-vous ça? Moi, je dis que pour chaque pasteur qui fait un burn-out, il y a au moins 5 ou 10 chrétiens qui en font un aussi, à cause de lui. Puis je trouve qu'on pense pas souvent aux autres. On pense pas souvent à ces gens-là. Quand un pasteur se trouve dans une église difficile, puis qui est fatigué, bon, il y a de ses collègues qui viennent lui donner des petites tapes dans le dos, puis qui l'encouragent. Moi, je dis gloire à Dieu pour ça. C'est bien que ça se fasse. Mais quand un chrétien fait une dépression à cause d'un mauvais leadership, puis qu'il y a des prises de bec avec le pasteur, qu'est-ce qu'on fait d'habitude? En général, on se force pas bien gros pour le comprendre. Hein? Il devient comme un véritable lépreux. Puis quand il a l'idée de changer d'église pour trouver un peu de paix, on le traite comme un rebelle, un rétrograde ou comme un traître. Il est mis de côté comme un chien, puis les membres de sa propre église, les gens qui croyaient être ses amis, ils viennent même plus le voir, qu'ils l'appellent même plus. Alors, je pense pas être vraiment sévère avec les pasteurs. J'essaie seulement d'être juste un petit peu. Il est grand temps que quelqu'un ouvre la bouche pour parler de ces choses-là. Moi, j'ai jamais entendu un sermon là-dessus. Jamais. Puis j'ai au-dessus de 17 ans, mon Seigneur. J'ai toujours entendu protéger l'autorité, protéger le ministère, protéger les pasteurs. Dites pas un mot. Jamais, jamais, jamais. Même si vous avez raison, taisez-vous. Laissez Dieu le juger. Pendant que tout le monde est en train de pleurer dans l'église puis souffle, là. Élevez pas la voix contre ces choses-là. Moi, je dis, ballonnez. Il est temps que quelqu'un parle de ces choses-là. L'humilité dans l'enseignement est très importante aussi parce qu'elle empêche le dogmatisme d'opinion qui crée des querelles dans l'Église. On nous dit en Actes 17, 21 que les Béréens examinaient les Écritures pour éprouver l'enseignement de Paul. Le terme grec traduit ici par « examiner » signifie « faire des recherches minutieuses et exactes comme dans les enquêtes judiciaires ». Moi, j'ai connu des leaders qui se sentiraient vraiment insultés s'il y avait des chrétiens qui feraient ça dans l'Église. Paul laissait les gens faire ça librement, lui. De l'autre côté, un pasteur devrait aussi pouvoir enseigner ce qu'il croit librement, sans toujours avoir peur de se faire tomber dessus après les réunions pour des moindres niaiseries par les gens qui sont pas d'accord. Il y en a qui s'en font un plaisir de ça. La liberté, il faut que ça aille dans les deux sens, les amis. La liberté qu'on réclame pour nous autres en tant que croyants, il faut être capable de l'accorder aussi à ceux qui nous enseignent. Tu as le droit de croire ce que tu veux, puis lui, il a le droit d'enseigner ce qu'il croit. Mais si vous pouvez pas dire amen à ça, moi, je suis capable. À propos de certaines questions qui tournaient autour du mariage, Paul a écrit en 1 Corinthiens 7:25 « Je n'ai point d'ordre du Seigneur, mais je donne un avis. » Paul avait une telle influence sur les églises qu'il aurait pu assez facilement manipuler à peu près tout le monde et les envoyer dans toutes les directions qu'il voulait. Mais l'humilité de Paul était au moins aussi grande que son autorité. Il n'a jamais abusé de la confiance que les gens mettaient en lui. En disant aussi « donner un avis », il reconnaissait en fait ses propres limites spirituelles. Ça prend de l'humilité pour faire ça, les amis, encore une fois. L'homme qui enseigne ou qui prêche à partir de la Bible peut être en train de vous transmettre l'exacte pensée de Dieu ou de vous transmettre seulement ce qu'il croit être la pensée de Dieu. Selon notre degré de maturité, on a tous un peu tendance à dépeindre Dieu selon notre image à nous autres, puis d'interpréter la Bible à la lumière de nos expériences personnelles. Il n'y a rien de mal là-dedans. Mais tant qu'on va être des hommes, il va falloir qu'on accepte les limites de notre humanité, en matière d'autorité surtout. On a tous une connaissance partielle des Écritures, puis de Dieu. Paul a écrit « J'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé », Éphésiens 3:7. Alors, même l'authentique autorité spirituelle possède des limites. Toute autorité a pour limite la mesure de la grâce que Dieu nous a accordée. Frédéric Godet, dans son commentaire sur l'Épître aux Hébreux, a écrit « Le don reçu doit être pour chacun la limite de son aspiration, la mesure de son activité, car c'est par là que se révèle la volonté de Dieu à son égard. L'homme du monde lutte contre les autres afin d'étendre sa mesure, de s'étaler, de dominer. Le chrétien lutte contre lui-même afin de parvenir à se dominer, et à se restreindre. Il aspire à demeurer dans sa mesure. » Très bien dit, ça. Qu'est-ce qu'un pasteur devrait faire alors quand il réalise que sa façon de diriger l'Église est contestée par quelques membres de l'Assemblée? Se mettre à affirmer son autorité, puis souligner aux gens leur devoir de se soumettre, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. C'est rien que l'orgueil qui peut nous inspirer une solution comme celle-là. L'homme charnel va nourrir son cœur de ressentiment contre ceux qui osent contester son autorité ou ses décisions. Il doit avant tout faire ses efforts, au contraire, pour conserver un esprit saint, nous dit Paul en 2 Corinthiens 6:6, c'est-à-dire une attitude exempte d'amertume. Il ne doit surtout pas en faire une affaire personnelle, puis se mettre à faire de subtiles pressions à travers ses sermons. S'il cherche à exercer des pressions dans le but de forcer l'obéissance, il est en train d'exercer une autorité selon la chair. S'il en fait une affaire personnelle, que les gens ne soient pas d'accord avec lui, puis s'il a l'habitude d'agir comme ça à chaque fois, c'est qu'il manque de maturité, puis il prouve qu'il n'est pas encore propre au ministère. Il ne serait pas le premier à être entré dans le ministère 10 ou 15 ans trop tôt. C'est lui qui prêche la soumission à son autorité, et tout bonnement en train de se recommander lui-même. Puis on sait que ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est éprouvé, mais celui que le Seigneur recommande. Excusez-moi. Un certain leader écrivait ceci à d'autres leaders. Christ a-t-il demandé sur un ton autoritaire à ses disciples de le respecter? Leur a-t-il jamais dit avec arrogance, « Qui est le Fils de Dieu ici? Vous devez me respecter. » Non, bien au contraire, Jésus a gagné leur respect. De quelle manière? En donnant le bon exemple par sa conduite, par ses paroles et par sa compassion. On peut juste admirer l'humilité de celui qui a prononcé une parole comme celle-là. Jésus a dit en Jean 12, 47, « Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge. » Jésus n'en faisait pas une affaire personnelle. un bel exemple pour nous autres. L'homme spirituel se contente de transmettre ce qui croit être la pensée de Dieu. Si le message est rejeté, il n'en fait pas une affaire personnelle, mais il remet plutôt tout jugement entre les mains de Dieu. À l'égard des gens là, qui n'acceptent pas sa parole, en ce qui le concerne, sa mission est finie. Il lui appartient pas de prendre lui-même des mesures pour que les gens se conforment à son message. Il n'a pas le droit de faire ça. Un seul est législateur, nous dit l'Écriture. Personnellement, je fais partie d'une église que j'aime, moi, là, puis j'essaie toujours d'avoir une attitude soumise à l'égard de ceux qui sont dans le leadership. Mais je demeure quand même un libre penseur, là. Jésus est la vérité, puis la Bible nous instruit sur Dieu. En ce qui me concerne, plusieurs hommes, dans le passé, ont revendiqué de l'autorité sur moi, mais j'ai toujours revendiqué moi-même la liberté de choisir à qui j'allais faire confiance ou non. Tout le monde devrait faire ça. Demeurons enseignables envers tout le monde, mais laissons-nous pas mettre sous aucun joug humain non plus. Moi, je pense qu'on peut avoir un sain équilibre entre les deux. En Actes 4, 19, les apôtres étaient devant le Sanhédrin, puis ils ont dit « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. » C'est assez insultant, ça, pour quelqu'un qui tient beaucoup à son autorité. Quand on fait la lecture de ce récit-là dans les Actes, là, on donne tous immédiatement raison aux apôtres. Hein, Moulissot, on dit « Ils ont bien fait de dire ça, c'est bon, c'est correct. » Mais la leçon se limite pourtant pas à l'époque apostolique. Ces choses-là ont également été écrites pour notre instruction aujourd'hui. Les croyants qui ont un réel souci de demeurer fidèles à Dieu en toutes choses font quelquefois face à ce genre de situation-là, eux autres aussi. Aujourd'hui, en tant que leader, on doit accepter le fait que Dieu puisse conduire des personnes sans passer par nous autres, puis de ne pas s'emporter pour ça. On doit accepter humblement que Dieu passe par-dessus notre tête des fois pour parler à l'Église, par quelqu'un d'autre, si ça lui fait plaisir. Dieu a le droit de tout faire. C'est à lui, l'Église. On doit accepter la souveraineté de Dieu en matière d'autorité, puis savoir demeurer à notre place. Les principaux sacrificateurs étaient mécontents de ce que les apôtres avaient passé au-dessus de leur tête, puis que c'était improvisé enseignant du peuple sans leur permission, sans leur divine permission. Hein. Pierre leur explique en ses propres mots que lui et ses confrères avaient reçu leurs ordres de Dieu lui-même. Dieu étant l'autorité spirituelle suprême de son peuple, leur mandat avait donc plus d'autorité que le Sanhédrin. Bon, le Sanhédrin avait apparemment des petites difficultés à voir les choses de cette façon-là, puis on sait pourquoi. Les pharisiens aimaient le pouvoir. Ils avaient un besoin d'importance puis de self-esteem à remplir. Le peuple était leur bétail, puis il n'était pas question de partager leur leadership avec personne, même pas avec Dieu, malheureusement. C'était ça le fond de l'histoire. Moi, j'ai vu des gens subir de véritables représailles pour avoir osé questionner ou mettre en doute l'autorité de leur pasteur à propos de certaines choses. Puis ils ont été traités comme des rebelles, puis comme des ennemis dans l'Église. Mais la définition du mot « rébellion » dans les cadres bibliques, là, c'est « rejeter la volonté connue de Dieu ». Être rebelle, c'est continuer par esprit de dispute à se battre contre la conviction intérieure du Saint-Esprit. Mais il peut y avoir rébellion seulement là où la volonté de Dieu est reconnue puis rejetée par esprit de dispute. J'ai connu des croyants qui acceptaient pas certaines directions ou décisions du pasteur de leur église, mais ils agissaient pas vraiment par rébellion. Si ces croyants-là avaient jugé bon de suivre une autre voie, c'est parce qu'ils croyaient honnêtement discerner que la voie qui leur était proposée par le leadership était simplement pas en harmonie avec ce qu'eux autres croyaient être la volonté de Dieu dans leur vie. Dans ces conditions-là, là, on ne peut pas parler de rébellion. Il est excessivement important pour un pasteur de discerner les véritables raisons derrière l'insoumission, parce que l'insoumission n'est pas toujours de la rébellion. Prenons garde de ne pas persécuter les gens parce qu'ils veulent seulement conserver leur liberté de conscience. En Luc 2, 48 et 51, c'est écrit « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte envers nous ?» Jésus a répondu « Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ?» Il leur était soumis. Si Jésus avait demandé la permission là, à ses parents pour passer 3 jours puis 2 nuits au temple pour parler avec des théologiens, ses parents n'auraient pas compris, puis il en aurait sûrement péché. Mais sachant que c'était la volonté de Dieu, il est passé par-dessus la tête de ses parents puis il est allé sans leur en parler. Tout ça, ça nous enseigne qu'il y a un temps pour se soumettre aux hommes puis il y a un temps pour se soumettre à Dieu. Dieu n'a pas été rebelle envers ses parents, puisqu'il est dit tout de suite après qu'il leur était soumis. Je pense pas qu'il s'agisse juste de cette occasion-là, je pense que ça parle d'un de ses traits de caractère qui était en lui en permanence. C'était pas de la rébellion ce qu'il a fait, mais simplement une question d'allégeance. Jésus avait obéi à celui qui est au-dessus de toute autre autorité humaine. Un enfant laisse déjà voir par sa conduite ce qu'il va faire plus tard, c'est vrai. On reconnaît bien ici le Jésus qu'on connaît dans les évangiles. Jésus a toujours jugé l'autorité des directions du Saint-Esprit de Dieu en lui comme une autorité supérieure au leadership des hommes, des pharisiens. Durant tout son ministère, Jésus a passé par-dessus la tête des chefs religieux sans cesse, tout comme il avait passé au-dessus de l'autorité de ses parents quand il était jeune. Quand l'autorité des hommes puis l'autorité du Saint-Esprit dans notre vie sont en contradiction, là, le choix est très simple. La soumission biblique n'implique pas nécessairement l'obéissance. Je répète ça parce que c'est tellement important. La soumission n'implique pas nécessairement l'obéissance. La soumission, c'est une attitude de cœur. La soumission aux anciens est biblique. Mais c'est pour le croyant. Se soumettre signifie entrer en conflit avec sa propre conscience ou ses propres convictions. Il est évident que le frère ou la sœur ne sont pas liés à obéir dans ces cas-là. Tout croyant doit d'abord allégeance au Saint-Esprit qui l'habite. Puis inquiétez-vous pas, les gens se changeront pas en hérétiques pour autant. William Fountas a dit « Personne ne peut suivre le Christ et se perdre. » Moi, j'y crois à ça. Dieu demande aux croyants d'être soumis à sa conscience avant toute chose. La conscience d'un croyant fait autorité dans sa vie. L'autorité de Dieu est toujours plus grande que celle des hommes, puis Dieu parle par la conscience. En conclusion, le croyant doit, par humilité, toujours maintenir dans son cœur une attitude de soumission envers le leadership de l'Église, tandis que l'obéissance, quant à elle, demeure toujours une chose relative. De son côté, tout leader doit avoir l'humilité d'accepter ça. Le leader doit courber son cou, puis accepter que l'Esprit de Dieu, dans le cœur des croyants, est plus grand que lui en autorité. Un bon leader va tenir compte de la conscience des gens. Il y a aussi l'humilité du leadership dans ses rapports avec l'Église. OK, moi j'ai déjà entendu enseigner par un leader que quand il y avait un différend entre le leadership et l'Église, que Dieu était toujours du côté de leadership. J'ai juste un mot à répondre à ça, ballonné. C'est absolument pas biblique. Quand il y a un litige entre un mauvais leader et l'Église, Dieu se mettra pas du côté du leader juste parce qu'il est leader, je m'excuse. Le jugement de Dieu fait pas exception de personne. Dieu est toujours du côté de la raison. Dieu est toujours du côté de ceux qui souffrent aussi. 1 Pierre 5,5 nous dit, « De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. » Ce texte dit aux jeunes croyants d'être soumis aux anciens croyants. Mais dans un deuxième temps, le même passage ajoute aussi, « Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. » Occuper un ministère ne place pas un individu au-dessus de la correction. L'humilité dans ce texte-là parle d'enseignabilité aussi. En d'autres mots, Pierre demande également aux anciens d'être soumis à l'Église, c'est-à-dire de demeurer enseignable envers les autres membres de l'Église, puis d'être sensible à la voix de Dieu derrière la volonté de l'Église ou la voix de d'autres croyants. L'idée ou la théorie qui veut que Dieu parle à l'Église seulement à travers le pasteur est fausse également. Ça, c'est rien que du catholicisme évangélique. J'ai déjà entendu un pasteur prêcher ceci, moi. Quand Dieu a une direction à donner à l'Église, il va toujours passer par le leadership. Je m'excuse, mais ça aussi, c'est du catholicisme. Vous avez déjà lu le livre « Les réveils religieux » de Charles Finney? C'est un classique, ça. Il raconte une histoire là-dedans qui est pas mal intéressante. Un jour, il y a une femme chrétienne qui va trouver le pasteur de son église. Elle lui dit qu'elle avait prié pendant un bon bout de temps, puis qu'elle avait acquis la conviction que Dieu allait faire un réveil dans la ville. Elle conseille donc au pasteur de se mettre à tenir des réunions d'évangélisation au plus vite, pour être prêt à recevoir les gens, puis pour pas manquer la bénédiction de Dieu qui était à la porte, là. Le pasteur sentait rien du tout de ça, fait qu'il l'a pas pris au sérieux du tout. Il a retourné la dame avec un petit sourire, puis avec des petites tapes dans le dos, là. Mais le Seigneur parlait encore dans le cœur de cette femme-là au sujet d'un réveil. Alors, comme elle avait pas pu se faire entendre de son pasteur, elle a elle-même installé des bancs dans sa propre maison. Puis elle s'est mise à faire des invitations, puis à tenir des réunions de prière et d'évangélisation. Devinez-vous la suite? Il y a eu, effectivement, un grand réveil dans cette ville-là. C'est dommage que ce pasteur-là ait pas eu plus d'humilité, parce que l'humilité donne de la réceptivité à l'Esprit-Saint. Dieu parle pas souvent à quelqu'un d'orgueilleux. Il y a l'oreille spirituelle pas mal dure. Les humbles sont les oreilles dans le corps de Christ. Souvenons-nous de ça. Si Pierre exhortait les anciens de l'Église à faire preuve d'humilité mutuelle, ou d'enseignabilité, si vous préférez, c'est pas sans raison. C'est justement parce que Dieu peut parler par n'importe qui. Puis il faut être sensible à ça si on ne veut pas manquer certaines directions ou bénédictions de Dieu dans l'Église. C'est pas vrai que Dieu passe toujours par le leadership pour parler à l'Église. C'est pour ça que l'Écriture nous exhorte à nous soumettre les uns aux autres dans la crainte de Christ, nous dit Paul en Éphésiens 5, 21. Il faut que je fasse une petite parenthèse ici. Il y a des gens qui couvent à l'intérieur de leur cœur de la jalousie vis-à-vis leur leader dans l'Église. Puis je veux pas que ces gens-là pensent que ce que je viens de dire là, dans ce message-là, leur donne le droit de faire du trouble dans l'Église. Alors remarquez bien ça, les gens qui sont frustrés parce que leur opinion n'est pas tenue en considération par le leadership, viennent jamais de Dieu. Cette frustration-là vient pas de Dieu, vient de la chair. C'est la chair qui éprouve la frustration. La frustration vient jamais du Saint-Esprit. J'ai lu les fruits de l'Esprit en Galates 5, j'ai jamais vu ça, que la frustration venait du Saint-Esprit. Ça vient toujours de la chair. Méfions-nous de ceux qui parlent tout le temps de soumission aux autorités de l'Église. On ne peut pas faire confiance à ceux qui se prêchent eux-mêmes, c'est bien de valeur. J'ai cru à la soumission aux anciens. J'ai toujours, avec une certaine réserve, été soumis aux anciens des églises dont j'ai fait partie. C'est une loi pour moi, la soumission. Puis d'avoir un esprit enseignable. Mais j'y crois à la soumission aux anciens, mais toujours avec une certaine réserve. Le croyant est généralement trop soumis aux hommes et pas suffisamment à Dieu. Le travail d'un pasteur, c'est d'amener les croyants à être de plus en plus soumis à Dieu, au Saint-Esprit et à sa parole. De façon générale, la soumission aux anciens a pour but d'amener le croyant à une plus grande connaissance de Dieu. Si pour une raison ou pour une autre, ce but-là n'est pas atteint, notre soumission à ce leadership-là doit être remise en question. James Mean a écrit, « Les chrétiens doivent imiter la foi des leaders, non pas déférer à leur volonté en toute chose », voir Hébreux 13:7 comme référence. D'un autre côté, si vous êtes vraiment soumis au Seigneur, vous allez avoir une attitude très docile envers les hommes qui vous enseignent. Le chrétien doit avoir l'humilité de reconnaître la voix de Dieu derrière celle de ceux qui l'enseignent quand c'est le temps. Une personne qui n'est pas capable, je veux dire, une personne qui n'est pas enseignable, excusez, qui critique puis qui fiole contre à peu près tout ce qu'il entend, vous ne me ferez pas croire qu'elle est soumise au Seigneur dans son cœur. Si on n'a pas un esprit enseignable devant la parole de notre frère qu'on voit, on ne l'est certainement pas à la parole de Dieu qu'on ne voit pas. Je parle de Dieu qu'on ne voit pas. Beaucoup de croyants aujourd'hui souffrent entre les mains de conducteurs qui n'aiment pas vraiment les gens puis qui ne sont pas propres au ministère, c'est un fait. Ça ne veut pas dire qu'il faut les pendre haut et court. Parce que s'il faudrait pendre tous ceux qui manquent de maturité quelque part, il faudrait qu'on soit tous pendus, hein, commencer par moi. Donc il s'agit seulement de se mettre en garde un petit peu. Je pense que tout le monde va être d'accord avec moi si je dis que le seul pasteur qu'on peut suivre aveuglément, sans danger, c'est Jésus-Christ. Je réalise de plus en plus que ça prend une patience angélique pour être pasteur. Puis que ça leur prend un amour presque aussi grand que celui de Dieu pour tenir le coup des fois. Alors même si les pasteurs de nos églises ne sont pas toujours exactement à la hauteur de nos attentes, apprenons nous autres aussi à passer par-dessus certaines choses. Il faut être sévère avec ceux qui sont sévères, mais il faut être tolérant envers ceux qui sont conscients de leur faiblesse. Amen.